Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette deuxième émission du week-end enregistrée à Nantes dans le cadre des Géopolitiques de Nantes, initiative de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. Regard aujourd'hui sur les États-Unis. Le deuxième mandat de Barack Obama s'achève dans un an. L'occasion de porter un regard sur le rôle et la place des États-Unis dans le monde et de se poser la question de savoir si ce rôle et cette place ont fondamentalement changé par rapport à l'ère Bush. La rivalité, voire la conflictualité avec la Russie est-elle un retour à la guerre froide? Obama a-t-il contribué à affaiblir ou accroître la puissance des États-Unis dans le monde? Entre faiblesse des Américains en Syrie, mais leadership sur l'accord sur le nucléaire iranien, les réponses sont peut-être à nuancer. C'est ce que nous verrons avec nos invités. Maya Candel, responsable du programme sur les États-Unis à l'IRSEM, l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire et chercheur associé à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3. Bonjour.
Bonjour.
James Cohen, professeur à l'Institut du monde anglophone de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, spécialiste de la politique américaine et notamment des questions migratoires. Bonjour.
Bonjour.
Et Thomas Negaroff, enseignant à Sciences Po. Bonjour.
Bonjour.
Dans un an, donc, le premier mardi de novembre 2016, les élections présidentielles américaines, c'est l'occasion avec vous trois de faire un pré-bilan d'Obama après cette année à la Maison-Blanche. Cette semaine a été marquée par l'entrée dans le conflit syrien de la Russie de façon militaire avec des attaques aériennes sur plusieurs points du pays. Est-ce que cette entrée de Poutine dans le conflit marque finalement ou est à voir comme un échec de la politique américaine dans la région? Ce sera peut-être la porte d'entrée pour ensuite élargir à d'autres aspects de la politique étrangère états-unienne. Thomas Negaroff.
C'est vrai que quand on se souvient de la photo de 2009 où il y avait, sur le même plan, Hillary Clinton et Lavrov en train d'appuyer sur un bouton qui était le symbole du reset, à savoir de la remise à zéro, on repartit sur des bonnes bases avec les Russes. On se rend compte à quel point, aujourd'hui, et depuis, en fait, c'est un cycle qui a commencé, à mon avis, avec la crise ukrainienne, à quel point les relations entre les États-Unis et la Russie sont très, très éloignées de celles qu'avait rêvé Barack Obama quand il est arrivé au pouvoir. Donc, si le sujet d'aujourd'hui, c'est la Syrie, mais c'est aussi la question du bilan de Barack Obama, et un bilan, ça se mesure dans un bilan comme un bilan comptable, entre ce qui était attendu et ce qui est réalisé finalement. Là, par rapport à la Russie, c'est plus compliqué. Concernant la Syrie en particulier, je crois que les États-Unis aujourd'hui finalement payent aussi une forme de rejet de la puissance militaire qui s'est traduite par, on le sait, par des lignes rouges pas tenues, par une incapacité aussi à agir sur le terrain, par une volonté par une crainte permanente de favoriser très clairement les rebelles à Bachar el-Assad et d'avoir une stratégie finalement d'endiguement de la Syrie d'Assad en espérant que la Syrie tombe d'elle-même finalement ou que Assad tombe de lui-même en oubliant que les Russes avec lesquels les Américains espéraient un reset, que les Russes à un moment donné ne pourraient pas rester en dehors de ce conflit ayant des intérêts militaires essentiels notamment avec la base de Tartous. Donc sur la question syrienne, c'est vrai que les Américains ont certainement été ont pas anticipé suffisamment les réactions russes à venir. Ils ont certainement minoré aussi la menace de l'État islamique. Moi je me souviens très bien en début 2014, c'est pas il y a si longtemps que ça, début 2014, Barack Obama publiquement expliquant en parlant de l'État islamique qui naissait mais quand même qui existait depuis quelques années déjà quand même. Il expliquait oui, c'est pas parce qu'on met sur une équipe de juniors de basketball un maillot des Lakers que ça devient les Lakers, sous-entendu c'est pas parce qu'ils se prennent pour Al-Qaïda que c'est Al-Qaïda. Donc il y a quand même eu une forme de légèreté peut-être et en tout cas une incapacité à penser une réaction à venir de la Russie. Moi je pense qu'il y a une vraie erreur diplomatique américaine.
Pour aller plus loin dans ce que vient de dire Thomas Negaroff, et je me tourne vers vous Maya Candel, on parle d'un Obama finalement d'une certaine manière tétanisé. C'est vrai que l'Afghanistan et l'Irak sont passés par là et que Washington ne veut plus entrer en conflit.
Oui, il y a beaucoup de choses dans ce que disait Thomas Negaroff sur lesquelles j'aimerais revenir. Effectivement, et bon, Obama il a été élu pour tourner la page des erreurs de Bush, etc. Donc il y a un rejet de l'outil militaire et il y a la volonté de renouer diplomatiquement. Avec la Russie, aussi, je pense qu'il y a cet aspect qui est que Obama a voulu cantonner finalement la Russie au rôle de puissance régionale, gérable, avec qui on pouvait discuter sur certains dossiers. Poutine, il n'a pas voulu de ce rôle-là. C'est une erreur sans doute d'appréciation des États-Unis, mais là-dessus, c'est Poutine qui n'a pas voulu rester dans ce rôle-là. Il veut revenir comme puissance majeure sur la scène internationale. En revanche, effectivement, sur la sous-estimation de l'EI, moi je suis tout à fait d'accord, et je pense que ça restera comme un des plus grands échecs d'Obama, la lutte antiterroriste.
James Cohen.
Juste ajouter à ça que quand on sous-estime, on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant de la menace terroriste et tout ce que représente l'État islamique comme menace, mais il y a aussi la menace qu'on produit soi-même. Les États-Unis, en intervenant comme ils l'ont fait sous Bush et Cheney en 2003, on semait une bonne partie en tout cas une partie non négligeable du conflit en Syrie et en Irak qu'on voit aujourd'hui. Donc l'idée de prétendre intervenir pour cacher des États et espérer des effets positifs, la preuve est faite que ça ne marche pas.
Maya Cornell.
Et je voulais juste ajouter, il y a quelque chose qu'on pourrait appeler le paradoxe Obama, ou qui est aussi le paradoxe de la prévention, c'est-à-dire que vraiment Obama a été élu pour retirer les États-Unis de ces guerres en écho aux souhaits de la population américaine, mais il en retire aucun crédit. Et c'est-à-dire, mais c'est quelque chose qui est assez courant, c'est-à-dire c'est difficile d'obtenir du crédit des opinions positives pour ne pas avoir fait quelque chose, en l'occurrence ne pas avoir impliqué les États-Unis militairement en Syrie, en Iran, en Ukraine, comme l'aurait fait ou prétendent qu'il l'aurait fait certains des candidats républicains. D'ailleurs, on y reviendra sans doute. Mais il y a au fond cette croyance d'Obama, cette conviction, je pense qu'il y a la base de son analyse et de son approche, pour pas dire sa stratégie, qui est il ne croit pas que l'outil militaire soit la manière de résoudre des crises, la plupart des crises, et notamment au Moyen-Orient.
Thomas Negarov.
J'irais même un peu au-delà, je suis tout à fait d'accord, et j'ai même l'impression que quand il est arrivé à la Maison-Blanche, il est arrivé en fait avec un paradigme en fait selon lequel la géoéconomie se serait substituée à la géopolitique. Et son shift vers l'Asie-Pacifique, c'était pas d'aller faire la guerre à la Chine, c'était aussi de tirer profit de la croissance chinoise, on l'a vu avec aussi les négociations sur le traité de libre-échange, et la géopolitique lui est revenue en pleine tête. Vraiment, c'est frappant, je trouve. Et c'est presque l'inverse de Bush, finalement, qui avait peut-être minoré les implications de la mondialisation et qui avait peut-être surjoué la géopolitique. Mais à Obama, je trouve, c'est vraiment le miroir inverse. Et la géopolitique, elle lui est revenue en pleine poire. C'est avec la Russie. Il pensait, et là, les travaux de Maya Cornell sont utiles là-dessus. Elle évoque notamment la question de cette nouvelle stratégie d'Obama, de to lead from behind, etc., de se mettre en retrait, de s'appuyer sur des alliances plus légères, etc. Mais en réalité, ce que le bilan de Barack Obama nous dira, c'est que Barack Obama, il a dû revenir au Moyen-Orient. Alors qu'il pensait que c'en était probablement fini, il a jamais réussi à contraindre Netanyahou, alors qu'il imaginait pouvoir enfin sortir de ce truc-là, d'aller pouvoir se concentrer sur l'Asie-Pacifique. Ça n'a pas été possible. Il a pensé aussi, mais ça bien avant lui Bush aussi, hein, que les Européens pourraient manager un peu la Russie, pourraient trouver une espèce de compromis, de discussion sur le sol européen, et que les Russes et que les Américains pourraient enfin se désengager, mais ils l'ont toujours voulu, hein, dès 1945, d'Europe. Et ben ils sont revenus en Europe parce que ils se sont rendus compte qu'on pouvait pas faire confiance aux Européens qui ont quand même fait n'importe quoi avec l'Ukraine. Et donc il y a une espèce de retour de l'histoire, je trouve, que Obama était un président presque post-histoire, quoi. Il y avait un côté, voilà, on solde, le passé a été soldé, maintenant c'est autre chose, il faut arrêter avec les préjugés destructeurs, il faut discuter différemment avec le monde, il faut penser géoéconomie, moins géopolitique. Et la géopolitique, elle est revenue. Alors, James Cohen a tout à fait raison. Elle est revenue parce que, aussi, l'Amérique a semé des tas de graines géopolitiques qui sont autant de choses qui, aujourd'hui, éclatent.
C'est structurel, c'est au-delà de la volonté d'Obama.
Voilà, c'est ça. Il y a un temps long qui se joue, là.
Alors, quand vous dites, Thomas Negarov, les États-Unis sont revenus en Europe, c'est plutôt l'OTAN, en ce qui concerne l'Europe. Revenus au Moyen-Orient, on a plus de doutes, quand même, sur le retour américain au Moyen-Orient, quand on voit la façon dont Washington gère la question syrienne, où il n'est pas question pour eux d'être.
Ah oui, mais là, je pensais plutôt au conflit proche-oriental. C'est-à-dire que vraiment, quand on sait bien que le premier coup de fil de Barack Obama, quand il est arrivé à la Maison-Blanche en janvier 2009, il ne l'a pas passé à Netanyahou, il l'a passé à Mahmoud Abbas. On sait aussi qu'il a immédiatement lancé tout son poids politique avec Hillary Clinton sur le moratoire sur la colonisation. Et puis Netanyahou a été réélu, Netanyahou fait ce qu'il veut, et les États-Unis finalement reviennent dans le rang dans cette politique. Il avait vraiment une tentation de mener une politique tout à fait nouvelle au Moyen-Orient, et je suis désolé, on revient sur des schémas historiques profond, structurel, comme dit James Cohen.
James Cohen.
Je voulais juste ajouter en note en bas de page de ce que vient de dire Thomas, que c'est que le Netanyahou ne fait heureusement pas tout ce qu'il veut, parce qu'il y a aussi un état-major et des services d'intelligence israéliens qui ne sont pas du tout sur sa ligne. C'est ce que je crois comprendre.
Alors, pour ce qui est des éléments positifs, cette année a été marquée par un certain nombre de rapprochements. Je pense au rapprochement avec Cuba. Je pense à l'accord sur le nucléaire iranien et au-delà, effectivement, ce rapprochement entre Washington et Téhéran, même si... les sanctions ne sont pas encore levées, même si le courant ne passe pas de façon fluide. Maya Kandel, deux éléments qui resteront tout de même au bénéfice de la présidence Obama.
Oui, tout à fait. Alors, on reviendra peut-être plus tard sur l'Asie, parce que je pense qu'il y a encore des choses à dire. Sur Cuba, c'est tout à fait clair. Je crois que c'était le président uruguayen qui disait, au moment de l'annonce du fait de reprendre des relations diplomatiques avec Cuba, il disait c'est l'équivalent de la chute du mur de Berlin pour l'Amérique latine. Et je pense, effectivement, c'est quelque chose de tout à fait important. On a vu les conséquences positives au sommet des Amériques qui a suivi au printemps dernier. Et c'est important parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier un peu l'Amérique latine aujourd'hui, y compris aux États-Unis. Alors aux États-Unis, moi je pense que c'est aussi parce que c'est presque considéré comme la politique intérieure. C'est vraiment... Mais bon, c'est une zone qui est essentielle pour les États-Unis. C'est une zone où ils étaient en recul ces dernières années en termes d'influence, en termes de poids économique. On a la Chine, enfin les suspects habituels.
L'Europe.
L'Europe aussi. Et donc, je pense qu'Obama était conscient, et ça allait de pair avec son agenda, effectivement l'accent sur la politique économique, qu'il fallait réinvestir, rétablir, on est dans le soft power peut-être davantage, le pouvoir d'attraction, d'influence. Après, il faut voir ce que ça va donner très concrètement. Mais le fait de renouer avec Cuba, effectivement, c'est essentiel d'un point de vue diplomatique. Il y a aussi des ramifications d'ailleurs en politique intérieure.
Et au-delà de cela, pardonnez-moi, je vous interromps, une volonté de la part de Washington de contrer d'une certaine manière la place de plus en plus importante aussi que prend la Chine. Donc il était extrêmement important de se réconcilier. Et Cuba était une pierre d'achoppement cette réconciliation entre le Nord et le Sud du continent américain, Thomas Negarov.
Je dirais même avec le Nord et le Centre, parce qu'en réalité, Cuba c'est vraiment l'espace caribéen. Et la Chine s'était réinvestie énormément dans la zone, avec en plus des acteurs très très complexes pour les États-Unis comme le Venezuela. Et en fait, aujourd'hui, le Venezuela est vraiment à plat économiquement, notamment
en raison de
la chute des cours, mais qui est pas non plus totalement absente de la politique étrangère américaine. C'est un des leviers d'action du président Obama, qui est un moyen de ne pas envoyer des troupes, mais d'affaiblir l'adversaire. Ça, c'est pas nouveau pour la politique américaine, mais c'est vrai qu'il s'agissait de reprendre pied en Amérique latine. Les États-Unis avaient tendance à considérer que c'était déjà fait. Il y a eu même des scandales quand dans des documents diplomatiques, on citait à peine l'Amérique latine. Je me souviens, dans sa nouvelle stratégie définie début 2013, il y avait à peine l'Amérique latine de citer. Comme si c'était un fait acquis. Et en fait, c'était pas acquis. Et Obama, au sommet des Amériques, a dit « Somos todos americanos », nous sommes tous américains. Il y avait effectivement la volonté de revenir, parce que les États-Unis avaient quand même été largement exclus de la dynamique sud-américaine après l'échec de la zone de libre-échange, la grande zone de libre-échange qu'avait voulu faire Bush père.
La terre de feu.
Voilà, qui avait été un échec. Il y a un retour à ça, parce que les Américains sentent bien qu'ils auront besoin de cette zone économique aussi très importante, d'une zone de stabilité aussi au sud, parce que c'est aussi des migrants potentiels demain, surtout vu l'état économique de l'Amérique latine, qui est quand même très fragile. Il y a des risques potentiels systémiques. Vous savez, la crise de la dette en 1982 du Mexique, elle a fait très mal aux États-Unis aussi. Donc, on peut pas se sortir de l'Amérique latine quand on est l'Amérique du Nord.
James Cohen, peut-être.
Alors, je voulais juste ajouter à ce qui a été dit que il faudrait peut-être qu'on se préoccupe aussi de ce qui va se passer à l'intérieur de la société cubaine. C'est-à-dire que je me réjouis, comme beaucoup, de cette ouverture, de cette normalisation des relations qui n'a que trop tardé. Ça représente, je dirais même, une sorte de victoire pour le peuple cubain qui a tenu le choc d'un embargo jusqu'à maintenant. Qu'en est-il de ce qui reste du modèle social cubain, qui n'était pas le socialisme parfait, disons, ni même très démocratique, mais qui a quelques acquis en matière d'éducation, en matière de santé? Est-ce que l'ouverture va permettre de protéger ça?
En même temps, sur si on s'abase au bilan d'Obama, est-ce que c'est une victoire, ce rapprochement avec Cuba, dans la mesure où c'est aussi un grand sentiment d'échec de 50 ans de politique étrangère américaine, d'embargo, comme disait James Cohen, d'endiguement de Cuba, et je suis désolé, les Castro sont encore au pouvoir. Alors, il faudra voir l'évolution sur la société cubaine, mais d'une certaine manière, c'est aussi, et d'ailleurs Obama l'a tout à fait signifié, il a acté que finalement la politique d'embargo avait échoué là où elle a, en tout cas selon eux, plutôt réussi en Iran. C'est-à-dire que c'est là aussi le smart power, hein, c'est l'idée de ne pas avoir une vision géopolitique trop figée, trop doctrinale, mais de pouvoir l'adapter en fonction des situations. Je suis persuadé qu'avec un président républicain, même avec le même pape, il n'y aurait pas eu ce rapprochement avec Cuba. Il a fallu vraiment que les États-Unis fassent, enfin que la diplomatie américaine fasse une forme d'aggiornamento, de remise à zéro de sa vision des choses, même si à mon avis on peut pas aussi oublier qu'il y a aussi un grand intérêt économique.
Bien évidemment. Oui, James Cohen.
Et d'ailleurs, il y avait un accord, contrairement à l'Iran, on a eu sur l'ouverture à Cuba un accord, non seulement un accord bipartisan au Congrès, c'est-à-dire un certain nombre de républicains qui étaient d'accord, mais même un sénateur républicain qui a été impliqué en amont dans les négociations qui ont conduit à l'annonce, etc. Donc il y a aussi, il y a l'importance de la population d'origine cubaine aux États-Unis et notamment en Floride, état clé pour les présidentielles, comme on le sait, comme on le verra peut-être à nouveau. Il y a des intérêts économiques aussi. Enfin, il y a des intérêts économiques très forts et aussi en termes de financement des campagnes.
Et puis il y a le temps qui passe. Les jeunes Cubains aujourd'hui, quand ils expliquent pourquoi, leur première préoccupation électorale, c'est plus du tout la question de relations avec Cuba. C'est des questions comme tous les autres Américains, ce qui est un signe d'intégration, à savoir l'emploi et d'autres questions sociétales.
Ils votent de plus en plus démocrates.
Et ils votent majoritairement démocrates.
On a quelques minutes pour peut-être commencer à répondre sur la question de l'Iran. Maya Kandel, un point positif pour la présidence Obama. Et Thomas Negaroff évoquait la différence de l'impact des sanctions entre Cuba et l'Iran. Il est évident aussi que les enjeux étaient probablement différents, et le fait que l'Iran se rapproche de la nucléarisation, en tout cas de la possibilité de faire une bombe, à peser d'un poids différent par rapport au rapprochement avec Cuba.
Je pense que l'Iran, c'est vraiment le symbole de ce qui constitue donc la base de cette approche, philosophie, stratégie Obama en politique étrangère. C'est le fait que qu'il croit en la diplomatie, y compris et peut-être surtout même le dialogue avec les adversaires des États-Unis. Et ça, c'est quelque chose qui le sépare des républicains, qui semblent ne plus envisager qu'on puisse parler avec les ennemis, qu'on peut seulement les bombarder, ce qui est...
C'est très régagnant.
Voilà, et ouais. Oui. Ouais. Enfin, pas du tout, en fait, mais... Donc je pense que, alors franchement, bon, c'est difficile d'avoir un jugement déjà aujourd'hui sur l'accord sur l'Iran. Cela dit, moi je pense que ce qu'on peut dire, puisque Obama, et je pense qu'il n'a pas tort, fait le constat de la limite de l'efficacité de l'outil militaire pour résoudre les crises au Moyen-Orient. À partir de là, on va vers une utilisation plutôt de la diplomatie. En ce moment, il y a une menace qui réunit tout le monde, qui est celle de l'État islamique. Je veux dire, on a parlé de la Russie au début de l'émission, c'est une menace également, donc l'Iran, les pays européens, mais y compris aussi aujourd'hui l'Arabie Saoudite, les monarchies du Golfe, qui sont très inquiètes du potentiel de déstabilisation de leur propre régime. Et je veux dire, c'est ça qui les inquiète, c'est leur survie politique avant tout. Donc voilà, à partir de là, le fait de renouer, de pouvoir discuter, d'avoir des relations diplomatiques, d'avoir pendant 3 ans eu des échanges extrêmement rapprochés, fréquents, entre diplomates américains et iraniens, de mon point de vue, c'est quelque chose de positif. Et c'est quelque chose qui restera très certainement dans l'héritage d'Obama.
Thomas Negaroff, très rapidement pour terminer cette première partie d'émission.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Bien sûr, ça restera quand on fera la postérité. C'est évident que c'est au niveau quasiment d'un rapprochement entre la Chine et les États-Unis au début des années 70.
James Cohen.
Et ce, en dépit de l'opposition féroce des républicains au Sénat.
Bien sûr.
Alors moi, ce que je retiens tout de même de cette première partie d'émission, c'est ce qu'évoquait Maya Kandel, Obama qui croit dans la diplomatie. Peut-être que cela est une vraie rupture par rapport à l'ère Bush qui a précédé. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Maya Kandel, James Cohen et Thomas Negaroff. Quelques instants, à tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la politique étrangère américaine depuis Nantes où se tient la troisième édition des Géopolitiques de Nantes, une initiative de l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Nous retrouvons nos invités, Maya Candel, responsable du programme sur les États-Unis à l'IRSEM et chercheur associé à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, James Cohen, professeur à l'Institut du Monde Anglophone de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et Thomas Negaroff, enseignant à Sciences Po. On a bien sûr développer un certain nombre de thèmes concernant la politique étrangère de Barack Obama dans la première partie de l'émission. Ce que j'ai senti des interventions de vous trois, c'est que finalement, et c'est peut-être voilà à mettre en débat entre vous pour aller plus à fond dans cette problématique, Maya Candel disait que Barack Obama croyait dans la diplomatie par opposition à l'utilisation de l'outil militaire pour résoudre des conflits dans le monde. Est-ce qu'on peut parler de rupture, en tout cas rupture par rapport à l'ère Bush, Maya Candel?
Oui, je pense qu'il y a une rupture non seulement par rapport à l'ère Bush, mais également par rapport à l'ère Clinton, finalement. Toute la période post-guerre froide aux États-Unis est quand même caractérisée par une utilisation plus fréquente de l'outil militaire. Alors, parfois, c'est simplement faire quelques frappes. Et là-dessus, on peut se poser la question de qu'est-ce que l'outil militaire pour l'Occident, pour les États-Unis aujourd'hui? Mais on a... Pour faire vite, les années 90, on dit aux États-Unis, c'est l'ère des faucons de gauche, c'est les interventions humanitaires, les Balkans, Haïti, etc. Ensuite, on a Bush et les néoconservateurs. Là, c'est les grands déploiements massifs des années 2000, Afghanistan, Irak, qui se terminent par des échecs et qui conduisent donc à cette élection d'Obama et à cette analyse qui considère non pas qu'il ne faut plus utiliser l'outil militaire, puisque Obama, on le sait, a fait un usage, certains pourraient dire, immodéré des frappes de drones, notamment, de l'emploi de la force par les forces spéciales, mais donc par des outils plus discrets. En revanche, il a clairement tiré de l'expérience des années 2000 les conclusions que l'outil militaire ne pouvait pas résoudre toutes les crises. Et j'ajouterais quand même, en 2012, au moment de sa réélection, on pouvait considérer que sa politique antiterroriste était un succès. Mmh. C'était un an après la mort de Ben Laden. Il disait qu'Al-Qaïda avait quasiment disparu. Bon, aujourd'hui, on voit que finalement, c'est plutôt un échec. Et même aussi récemment que l'année dernière, il parlait du Yémen, du modèle du Yémen, comme étant donc un succès et un modèle de sa stratégie antiterroriste.
Quand on voit ce qui se passe, évidemment,
catastrophique.
Thomas Negaroff et James Cohen.
Oui,
Thomas Negaroff.
Juste un mot, je suis évidemment d'accord, il a évidemment beaucoup moins utilisé la puissance militaire. Après, moi je pense que c'est un grand pragmatique, Barack Obama, là où George Bush était plutôt un idéaliste. Alors attention, l'idéalisme est souvent une valeur connotée positivement. C'est un idéaliste, Bush, parce qu'il pensait qu'il pouvait développer la démocratie dans le monde, imposer le modèle américain partout, etc. Alors que je pense que, certainement, peut-être plus articulé intellectuellement, Barack Obama et son administration ont considéré le monde plus tel qu'il était, même s'ils sont peut-être trompés sur l'appréciation, mais en tout cas en considérant qu'ils ne pouvaient plus utiliser la puissance militaire comme ils l'avaient pu, aussi avec, bien sûr, l'héritage des années Bush et ce qu'on appelle le war fatigue, une fatigue de la guerre, un refus de la guerre de l'opinion publique américaine qui était très forte en 2009-2010, qui s'est un peu affaiblie depuis, mais qui a été très forte à un moment donné. Donc c'est le produit d'une analyse du monde tel qu'il était, plus une perception, une préemption très bonne de l'opinion publique qui a fait que les États-Unis ont certainement moins utilisé, pour reprendre un peu ce que voulait dire Maya Candel, moins une puissance, il a parlé de puissance discrète, c'est vrai, un usage plus discret de la puissance militaire, mais quand même un usage de la puissance militaire. Mais vous savez, les États-Unis, sur la longue durée, ce qui compte, c'est pas tellement le moyen, c'est la finalité. Quand la possibilité de la puissance militaire se pose, notamment après la chute du mur, quand il y a une période d'unipolarité multilatérale, à savoir les États-Unis sont seuls, mais peuvent compter sur les autres pour partager, notamment au sein de l'OTAN ou de l'ONU, les coûts de l'opération militaire. Ils y vont et ils sont en tête des opérations multilatérales. Dans les années suivantes, 90, c'est une période plus d'unipolarité où les autres sont pas encore assez forts, mais assez forts pour s'y opposer. Ils y vont tout seuls. Mmh. Et aujourd'hui, on est dans une forme de multipolarité qui est en train de réémerger. Et du coup, ils y vont plus parce qu'ils peuvent plus y aller tout seuls sans avoir des conséquences. C'est ce qui est en train de se passer en Syrie aujourd'hui. Ils se rendent compte que il y a d'autres puissances aujourd'hui qui n'hésitent plus à exister sur la scène internationale, qui n'hésitent plus à lancer leurs avions, à reprendre la Crimée, etc., etc. Donc il y a un monde. C'est pas les États-Unis qui font ce qu'ils veulent dans le monde. C'est aussi un rapport au monde qui peut changer en fonction des puissances autres dans le monde.
Alors pour parler des puissances, en l'occurrence la Russie, qui semble, et on le dit, alors avis partagé ou pas, qui vient remplir un vide. James Cohen,
je souhaitais ajouter pour continuer un peu sur cette ligne dans cette discussion sur le bilan d'Obama. Je pense que j'ai un bilan beaucoup plus mitigé finalement, parce que même s'il est vrai qu'il est plus réfléchi et la stratégie de son administration est plus réfléchie et beaucoup plus, comment dire, circonspect en matière d'usage de la force. Mmh. Et on est finalement soulagé après les années Bush-Cheney. Par rapport à ça, on ne pouvait qu'être soulagé, mais en même temps, il y a des continuités qui conviennent de souligner. Finalement, même si Obama est en froid avec Netanyahou, la relation spéciale avec Israël reste intacte. Premier point. Deuxième point, Obama continue dans la ligne républicaine avec son insistance sur ces grands traités de libre-échange qui sont en train d'être négociés en secret, côté Pacifique et côté Atlantique, et là-dessus, il rompt avec son propre parti et traduit plutôt une sorte de continuité néolibérale, j'oserais dire, avec les républicains avant lui.
Alors, triple question pour un tout petit peu avancer et élargir peut-être le débat. La première s'adresse à vous, finalement, James Cohen. Est-ce que comment les Américains voient la politique étrangère d'Obama, les Américains des États-Unis? Puis peut-être pour vous, Maya Kandel, la puissance américaine, est-ce qu'Obama l'a renforcée, au contraire affaiblie? Est-ce que pendant ces 7 ans, Obama aura plus que ses prédécesseurs, moins, je ne sais pas, finalement défendu l'intérêt national états-unien? James Cohen.
L'opinion américaine est extrêmement divisée et polarisée, et pour faire bref, je dirais qu'il y a au moins 3 secteurs. Il y en a sans doute plus, mais il y a côté républicain la volonté de se démarquer d'Obama avec violence et véhémence chaque fois que c'est possible. Donc les gens qui suivent la prêche des candidats républicains considèrent qu'Obama a exposé le pays à plus d'insécurité que jamais, ce qui n'est pas du tout prouvé. Côté démocrate, ceux qui défendent Obama face à cette prêche-là vont le défendre pas inconditionnellement, mais assez largement, sauf pour un secteur de l'opinion qui décroche de ça, et j'en fais partie. Pour tout vous dire, je pense que il y a le monde qui est en train d'être préparé n'est pas plus sûr pour autant. Mm. Et si on regarde la candidature de Hillary Clinton qui se profile, elle va probablement gagner. Elle va dans un sens un peu plus faucon et se range du côté des républicains un peu plus modérés, mais pas très modérés à mon avis.
Ce sera intéressant s'il nous reste du temps d'aborder en particulier la candidature d'Hillary Clinton, qui ne semble pas si certaine que cela aujourd'hui. En tout cas, peut-être revenir aussi sur les... Il y a eu un débat entre les candidats
républicains. Les sondages pour les primaires la donnent gagnante un peu partout, sauf dans 3 ou 4 États où le socialiste Bernard Sanders pourrait l'emporter.
Alors tout cela si tous les candidats démocrates que l'on évoque ne rentrent pas dans la course et affaiblissant la compétition de Hillary Clinton. Sur la puissance américaine, Maya Kandel.
Oui, est-ce que Obama a renforcé, affaibli les États-Unis sur la scène internationale? C'est compliqué. Je pense qu'il y a, et puis surtout il y a 2 questions en fait, je pense, là-dessous. Il y a une question sur l'état de la puissance américaine aujourd'hui, et une question sur le bilan Obama. Et sur la puissance américaine aujourd'hui, je pense que c'est indéniable qu'il y a une tendance lourde au déclin relatif de la puissance, de la puissance américaine dans le monde. C'est une tendance sans doute inéluctable qui a été accélérée par les erreurs de Bush, par la crise financière aussi de 2008, qui est liée en partie à ces guerres, mais pas seulement. Est-ce que Obama a plutôt renforcé ce déclin ou freiné ce déclin? Alors, c'est l'occasion, je pense, de parler aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Europe et du Moyen-Orient. Il faut voir, pour le dire vite, ce désengagement relatif des États-Unis. C'était une condition pour rendre possible ce qui était la priorité d'Obama, qui découlait de son analyse, à savoir le pivot vers l'Asie, la nécessité pour les États-Unis de se réengager dans une région qui... toujours selon l'analyse d'Obama, se déplaçait désormais le centre de gravité des relations internationales. Et là-dessus, je pense que, alors c'est un réinvestissement qui n'est pas seulement économique et aussi militaire, puisqu'on a vu ce fameux pivot ou rééquilibrage apparaître dans les documents du Pentagone, des documents stratégiques américains. Alors moi, j'ai peut-être un avis un peu plus nuancé là-dessus. On critique beaucoup, on dit que finalement, le pivot, ça a fait pchit, hein, pour reprendre une expression bien connue. Je pense pas. En fait, c'est du long terme. Je crois que pour Obama... Et c'est ce qui a déplu à Poutine, sans doute, d'ailleurs. Le seul adversaire à la mesure des États-Unis, c'est la Chine, mais c'est du moyen-long terme. C'est à l'horizon de plusieurs décennies, peut-être, pour l'instant. On est encore dans essayer d'approfondir les liens, etc. Bon, les Américains, dans cette zone, ils ont quand même fait, sous Obama, un certain nombre d'avancées dans les relations avec le Vietnam. Enfin, le Vietnam, c'est quand même pas n'importe quel pays dans l'histoire des États-Unis. Les liens sont très resserrés. Avec les Philippines, qui avaient quand même éjecté les États-Unis il y a un peu plus de 20 ans. Bon, bah là, il y a de nouveau des accords de partage des bases. Et voilà, le Myanmar aussi, effectivement, ouais, j'allais oublier.
Birmanie,
très important. Et par rapport à la Chine, Obama a su faire preuve aussi de fermeté. On l'accuse de faiblesse, mais par exemple, en novembre 2013, au moment où était signé le premier accord intérimaire avec l'Iran à Genève, au même moment, la Chine a déclaré une zone d'exclusion aérienne en mer de Chine orientale. Quelques heures plus tard, le Pentagone a envoyé deux bombardiers américains survoler la zone pour bien montrer qu'ils ne se sentaient pas concernés. Et Pékin n'a rien dit, n'a pas bronché. Donc, il y a quand même un réinvestissement qui a existé. Il y a des marines sur la base de Darwin en Australie. Voilà. Mais là, on est dans une dimension à plus long terme. Les Américains, Obama a investi dans la relation avec Xi Jinping, qui d'ailleurs est en train de faire franchir un stade aussi à la Chine, qui désormais rechigne beaucoup moins à avoir un rôle de grande puissance. Et on a même vu récemment sur le climat que les Chinois sont beaucoup moins réticents aujourd'hui à l'idée d'un directoire américano-chinois. Ils aiment bien, sur certains sujets en tout cas. Alors après, juste pour finir, moi je... Donc ça, je pense que c'est plutôt à porter au crédit d'Obama, même si on va avoir un affrontement. Il existe déjà dans certains domaines, sur le cyber, sur le spatial, etc. Et je pense que la domination américaine, domination dans le Pacifique, elle est comptée. Mais bon, ça va être progressif.
À plus long terme, voilà. Thomas Negaroff.
Je pense que sur la question de savoir si l'Amérique est plus ou moins puissante sous Barack Obama, c'est extrêmement difficile parce que on a une variété d'indicateurs. Quels sont les indicateurs qu'on choisit? Est-ce que c'est l'indicateur au doigt mouillé, à peu près? Est-ce que c'est la puissance militaire? Est-ce que c'est la puissance économique? Est-ce que c'est l'influence? Est-ce que c'est l'image dans le monde? C'est très difficile. Ce qui est vrai, ce que tous les sondages montrent d'opinion, les enquêtes d'opinion, c'est qu'en tout cas, Obama a réussi à restaurer une forme d'image de l'Amérique dans le monde qui était totalement dégradée sous l'administration Bush. Donc déjà, c'est important parce qu'on sait bien que la puissance, c'est bien sûr une capacité, une volonté, mais c'est aussi une reconnaissance par les autres de sa capacité de puissance. Or, à la fin de l'époque de l'ère Bush, et la crise géorgienne l'a montré, les États-Unis étaient quand même largement détestés dans une bonne partie du monde à cause de leur aventurisme militaire, sur lequel on reviendra peut-être, mais qu'on a déjà évoqué. Donc il y a cette restauration de l'image, à mon avis, des États-Unis. Après, tout dépend aussi des parties du monde qu'on choisit. Moi, je pense que avec l'Europe, et ça dit aussi beaucoup la faiblesse de l'Europe, les États-Unis restent la puissance indispensable pour les Européens. C'est-à-dire que sur la question ukrainienne, on a besoin des États-Unis. Les États baltes ont besoin des États-Unis pour se sentir en sécurité face à la Russie. Sur le nucléaire iranien et sur Cuba, c'est marrant parce que depuis tout à l'heure, on ne parle que des succès d'Obama, mais il y a la communauté internationale quand même derrière ça. Sur l'Iran, c'est 5+1, c'est pas 1+1, c'est pas 1+1, je veux dire. Et sur Cuba, ça vous a pas échappé, mais François Hollande n'est allé à Cuba que lorsque les États-Unis l'ont permis. Que lorsque les États-Unis ont normalisé leurs relations, ont entamé la normalisation. Avec Téhéran, c'est la même chose. Il y a une semaine, une délégation d'entreprises françaises qui sont allées à Téhéran. Eh ben, elles sont allées à Téhéran aussi parce que il y a eu un rapprochement de fait par Washington. Donc, je crois que l'Amérique reste, c'est une expression un peu convenue, mais une nation indispensable pour les Européens. C'est vrai que dans d'autres parties du monde, c'est plus fragile, c'est en phase de fragilisation. D'autres endroits, ça se consolide. En Amérique latine, on en a parlé. Donc, c'est difficile. Et puis, l'Afrique, on parle pas beaucoup d'Afrique. Mais en Afrique, là, les États-Unis sont aussi en grand danger. Ils ont longtemps délégué aux Européens, ancienne puissance coloniale, la maîtrise occidentale, si on peut dire, de l'Afrique. Et alors là, pour le coup, il y a une vraie concurrence indienne, chinoise, japonaise même, en Afrique, même brésilienne. C'est difficile de parler depuis puissance. C'est clair que si on prend l'idée de la puissance globale, ça je pense que les Américains ont compris que c'était fini, que l'hyperpuissance était une toute petite période de l'histoire, elle n'a pas duré très longtemps, quelques années seulement, et on revient à quelque chose finalement de plus traditionnel, à savoir d'un équilibre sur des bases plus régionales, et les États-Unis en revanche ne sont pas prêts à mon avis à lâcher leur précaré occidental qui comprend selon moi l'Europe de l'Ouest, mais aussi l'Amérique latine.
Alors, les États-Unis, il nous reste quelques minutes pour évoquer cette page de l'émission, rentrent donc en campagne électorale dans un an, un peu plus, les élections présidentielles en novembre 2016. James Cohen, qu'est-ce que l'on sait quand je dis que les États-Unis sont en campagne, c'est vrai que côté républicain, les candidats à l'investiture républicaine ont déjà se sont présentés et se sont officiellement portés candidats. Il y en a un certain nombre, avec quelques surprises, plusieurs, ils sont une quinzaine, en tout cas une grosse dizaine,
oui,
une quinzaine.
Il y
a eu déjà deux débats télévisés, dont un uniquement consacré à la politique étrangère. Est-ce qu'on peut imaginer, dans le cas d'une élection d'un candidat républicain à la Maison-Blanche l'année prochaine, une sorte de détricotage de ce qui aurait été fait par les démocrates pendant 8 ans?
On peut l'imaginer.
James Cohen.
On peut l'imaginer.
Sur l'Iran, notamment.
Si on prend au sérieux ce qui est dit dans les débats, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Si un des républicains passe, et je ne parle même pas de Trump, je parle surtout de gens comme Cruz, Fiorina, Carson, des noms peu connus à l'étranger, Marco Rubio, nom un peu plus connu, ils essayent de se dépasser tous en matière de critique véhément du bilan d'Obama, mais pour mieux souligner à quel point ils sont prêts à intervenir tous azimuts en Syrie demain, ils n'ont pas l'air de mesurer les conséquences de leur propos.
Une vision dangereuse finalement du monde, c'est ça qu'il faut entendre, James Cohen?
Peut-être qu'une fois aux affaires, on s'assagit un peu et on est soumis à des contraintes plus compliquées, ne serait-ce que du côté de l'état-major, etc. Mais néanmoins, ces républicains m'inquiètent et Hillary Clinton aussi m'inquiète pour quelques-unes des mêmes raisons. Bernard Sanders, le candidat de gauche qui pourrait remporter 2 ou 3 élections primaires dans le New Hampshire, à Iowa et peut-être quelques autres états et qui est en deuxième position aujourd'hui face à Hillary Clinton avec entre 20 et 25% de préférence exprimée dans les sondages à propos des primaires, il est un peu plus rassurant. Il est plus discret sur les questions de politique étrangère parce que son grand message est sur l'inégalité sociale. Il porte un message finalement social-démocrate qu'on n'a pas beaucoup entendu aux États-Unis depuis les années 30. Donc il reste plus discret sur les questions de politique étrangère, mais sur les questions de libre-échange, entre guillemets, beaucoup de guillemets autour, il est très ferme et je le soutiens là-dessus face à tous les autres candidats.
D'accord, et on aura bien compris aussi, James Cohen, vous êtes américain, que vous votez aux États-Unis. Donc,
je ne peux pas être impartial dans ces débats, impossible.
Tout à fait. Thomas Desgaroff et Maya Kandel sur cette campagne électorale et sur la vision de la politique étrangère, côté républicain et démocrate.
Moins acteur et plus observateur que James Cohen, moi je suis passionné par la campagne des républicains et voir à quel point la figure de Reagan revient complètement au cœur des enjeux avec une lecture complètement aberrante et souvent très fausse de Ronald Reagan en politique fiscale, en politique économique, politique sociale s'il en est une, et en politique étrangère effectivement. Il y a vraiment l'idée, on peut pas dialoguer avec le diable, on ne peut dialoguer avec le diable qu'en position de force, c'était le grand truc de Reagan face à l'URSS, il y a vraiment de ça. Et il y a aussi l'idée un peu de retrouver ce que Nixon avait un peu théorisé, vous savez, the madman theory, l'idée que en politique étrangère, si vous avez un peu comme Poutine, hein, si vous avez ou en Corée du Nord, si vous avez un dirigeant qui semble ingérable, les autres ne bougeront pas parce qu'ils ne peuvent pas jouer, ils ne peuvent pas espérer, ils ne peuvent pas compter sur la raison. Et c'est parfois ce qu'on reproche à Barack Obama. Si on fait son bilan, on considère que Barack Obama, on sait tellement à ce point qu'il est raisonnable que les autres puissances se sentent en position de pouvoir faire des choses qu'avec d'autres, elle ne se permettrait pas de faire, parce qu'on sait très bien qu'Obama, au final, il va dialoguer, il va apaiser, les lignes rouges, il les passera pas. Donc c'est un peu ça, le discours républicain.
Maya Kandel, très rapidement.
Oui, moi, ce que je trouve très frappant, c'est que Thomas Negaroff disait que les Américains ou l'administration Obama ont compris les limites de la puissance américaine. Moi, ce que je trouve très frappant dans le débat républicain, c'est que, alors je sais pas s'ils l'ont compris ou pas, mais en tout cas, ils refusent de l'accepter. C'est le cas de la majorité de l'establishment de politique étrangère à Washington.
C'est retour à le futur.
Voilà, c'est un refus d'accepter que le monde a changé et que l'Amérique n'est plus une hyperpuissance.
En tout cas, nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci, c'est la fin de Géopolitique enregistrée à Nantes dans le cadre des Géopolitiques de Nantes. Merci à nos invités, Maya Candel, responsable du programme sur les États-Unis à l'IRSEM et chercheur associé à l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, James Cohen, professeur à l'Institut du Monde Anglophone de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et Thomas Negaroff, enseignant à Sciences Po. Géopolitique était signé Marie-France Chatin et Richard Rifono à Nantes, Véronique Durand et Boris Vichit à Paris. À samedi prochain.